Nous sommes le lundi 14 février 2022. Il est 19h sur le 101.5 de Radio G et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. C'est l'heure de la case de Seb. Au programme de ce soir, du love, de la fesse, du mâle presque alpha, des trucs bizarres et un peu de science-fiction et d'autres trucs. Avec aussi une interview. Attention, générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la case de Seb. L'émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images issues de la BD franco-belge, du manga et du comics. Seb au micro et nous sommes ensemble pour une heure et j'espère que nous passerons un bon moment. J'ai le plaisir d'être accompagné ce soir par absolument personne puisque du coup l'émission est enregistrée, souhaitant faire plaisir à ma chérie comme beaucoup de gens qui ne sont certainement pas en train d'écouter cette émission parce que c'est un peu la Saint-Valentin. Mais j'ai la chance quand même d'avoir une petite interview qui a été réalisée lors du Festival Angers BD 2021, donc l'édition de décembre dernier, où j'ai eu la chance de rencontrer Katia Even, qui est l'autrice du Petit Derrière de l'Histoire, entre autres, mais on s'est orienté sur ça lors de l'interview, et je vais vous laisser l'écouter, qui va nous parler de son travail. On se retrouve tout de suite après.
Bonjour à tous.
Alors, est-ce que tu peux, si ça t'embête pas que je te tutoie, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu de ta carrière? Comment tu en es venue à la bande dessinée? Quel est ton parcours professionnel pour arriver à la BD?
Bah, au début, je voulais faire du dessin animé. J'ai pas eu le droit de faire des études artistiques. J'ai fait des études de langue et des études de tourisme. Et je faisais de la peinture aussi. Donc, je travaillais dans le tourisme. J'exposais mes peintures. Et petit à petit, en fait, je voulais vraiment retourner vers ce que j'aimais bien. Donc, raconter des histoires, soit animées, soit en BD. Et je suis allée à un festival BD une fois où j'ai osé aller parler à un auteur pour essayer de voir comment fallait faire, simplement. Enfin, c'était vraiment le monde inconnu pour moi. Et puis je me suis dit, bon, ben, je vais me lancer, je me laisse quelques années pour réussir à faire quelque chose. J'ai bossé comme une malade pour essayer d'améliorer mon dessin, améliorer les scénarios aussi. Donc je me suis mise à vraiment l'apprendre quand je bossais pas, en autodidacte en fait, le métier. Et puis voilà, j'ai monté plusieurs dossiers et c'est les éditions de Joker qui m'ont signé la première fois.
Et du coup, ils t'ont signé sur quel type d'album? Est-ce que tu veux nous faire un petit retour sur ta carrière en tant qu'autrice?
Alors, ils m'ont signé sur un album qui s'appelle LOL Story, où j'étais au dessin et il y avait un scénariste dessus. C'était pas le premier album que je sortais, mais c'était le premier à compte d'éditeur. J'avais en fait déjà sorti un petit album qui s'appelait Rachel la petite souris. C'est un album de bande dessinée pour enfants qui parle de la petite souris des dents de lait. Donc souvent, cette petite souris, elle est que en album jeunesse. Moi, je voulais en faire une petite BD pour les enfants qui commençaient à lire, parce qu'ils perdent leurs dents quand ils commencent à lire, en fait. Donc la toute première BD, mes enfants, ils étaient petits et il n'y avait pas de BD vraiment adaptée pour eux pour faire le passage entre la littérature de jeunesse, entre guillemets, pour bébés, quand on leur demandait, et la BD. Et voilà, il y avait Cédric, mais il y avait vraiment très peu de BD pour les primo-lecteurs comme ça. Et donc Rachel répondait à ça et ça a bien fonctionné. Et ça, je l'avais sorti en auto-édition. Et ensuite, donc, LOL Story, ça a été une BD jeunesse où j'étais au dessin. Et petit à petit, je suis arrivée au scénario et à des BD un petit peu plus adultes, carrément adultes, même parce que c'était de la BD érotique.
Et comment on décide de faire de la BD érotique? Alors, la BD est un milieu principalement masculin, il y a beaucoup d'émergences féminines maintenant, mais est-ce que c'est pas compliqué de se dire, tiens, en tant que femme autrice, déjà minorisée, on va faire en plus de la BD érotique ?
Non, parce que je me pose pas ce genre de questions. Moi, quand j'ai envie de faire un truc, j'y vais. Donc, non, j'avais vraiment envie de faire de la BD érotique. J'aimais bien. J'aimais bien la BD érotique, mais il y avait un problème pour moi en tant que femme, justement. C'est que tout ce que je lisais, c'était des fantasmes masculins. Il y avait rien qui était assez représentatif de ce que moi j'aurais bien aimé lire. Du coup, comme on n'est pas moins bien servi que par soi-même, du coup, je me suis dit, allez, hop, on va écrire un truc. Donc, j'ai commencé à écrire quelque chose qui était vraiment fait sur les fantasmes féminins, la déesse celte de l'amour, Annan. Et c'est un bouquin qui s'appelait La déesse. Je suis allée le proposer aux éditions Tabou, qui m'ont dit oui tout de suite. Donc voilà, c'est parti, c'était parti là-dedans. Et à partir du moment où j'étais dans la BD érotique, il n'y avait aucun problème avec mon genre, aucun problème avec le genre des lecteurs. Au contraire, ça se passe très très bien. C'est un milieu qui n'a pas l'hypocrisie, en fait, des autres milieux qui ne touchent pas à l'érotique.
Et comment, du coup, on représente autre chose d'érotique qu'un fantasme masculin ?
Ben, faut lire mes albums.
Tu as un trait qui est très rond, presque enfantin sur au moins le petit derrière, même sur d'autres albums. Est-ce que ça pose pas parfois un problème sur le public cible ?
Alors non, parce qu'il faut séparer deux choses déjà dans ma bibliographie. C'est que d'un côté, là où je suis au scénario, ce sont des histoires que montrer ne permettrait pas de dessiner. Donc là, on va trouver des histoires qui peuvent être dans la Rome antique, des histoires qui peuvent être policières, des histoires avec énormément de magie dedans, et je ne suis pas très très à l'aise avec le dessin vis-à-vis de ça. Le petit derrière de l'histoire, c'est moi qui scénarise, c'est moi qui dessine, mais là, c'est quelque chose qui n'est pas sérieux, c'est des voyages dans le temps, c'est humoristique, ça part dans tous les sens. Là, c'est quelque chose que je maîtrise mieux, en fait, le côté un peu cartoon. Que pour des histoires un petit peu plus érotiques, comme dirait mon éditeur, du genre de BD qu'on lit à une seule main. Et ben, pour ce genre de choses, il faut un dessin pas humoristique, il faut un dessin un petit peu plus réaliste ou au moins un peu plus stylisé. J'ai pas le niveau pour ça, donc c'est quelqu'un d'autre qui le fait à ma place. En fait, j'ai des dessinateurs avec qui je m'entends très très bien, des dessinatrices aussi. Et donc pour les fantasmes féminins, c'est assez simple en fait avec leur style de dessin. Moi, le petit derrière représente pas du tout les fantasmes féminins. Le petit derrière, c'est vraiment de la grivoiserie, c'est des voyages dans le temps, c'est tout sauf quelque chose pour se prendre au sérieux.
Le petit derrière, on est sur une BD qui est érotico, historico, rigolo. Comment ça se joue l'équilibrage entre ces trois éléments ?
Bon, ça c'est une bonne question. Je me suis pas posé la question. J'en sais rien. Non, c'est. Je suis pas quelqu'un qui se prend très au sérieux, donc c'est peut-être plus évident aussi pour moi, enfin, de faire ce genre de choses. J'ai tendance à tourner très facilement tout à la dérision. Donc c'est pas quelque chose qui me pose problème. Après, j'adore aussi l'histoire des inventions. C'est quelque chose qui m'a toujours plu, de savoir comment ils ont fait pour trouver ce truc. Qu'est-ce qu'il y a, le cheminement qu'il y a eu avant l'invention. Moi, c'est ça qui m'intéresse en fait. C'est pas l'invention en elle-même. Comment ils ont fait pour savoir que la vapeur, ça pouvait soulever une soupape. Comment, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Où est-ce qu'ils ont été fouillés pour se dire je vais trouver quelque chose à cet endroit-là. Donc j'aime bien ce qui s'est passé avant les inventions. Mais ça, c'est quelque chose que j'aime bien au quotidien. J'ai tout le temps envie de m'interroger là-dessus. Donc l'album parle de ça parce que c'est une ressource facile pour moi vu que c'est déjà un intérêt. Ensuite, les voyages dans le temps, c'est quelque chose qui me plaît bien. J'aime bien tout ce qui est un petit peu SF et tout, donc voilà. Et puis le côté humoristique, c'est parce que je me prends pas au sérieux, que mon dessin s'y prête bien, donc c'était un ensemble.
Alors du coup, on a presque répondu à la question qui venait ensuite, mais de quoi ça parle le petit derrière de l'histoire ?
Ça part de l'adage tout simple que tout le monde connaît, qui dit que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Et moi, je me suis posé la question, mais si ça se trouve, c'est la même femme qui vient plus ou moins de notre époque et avec toutes les connaissances qu'elle a, donc du monde moderne, elle voyage dans le temps et elle arrive dans le lit des grands inventeurs et sans même le vouloir, elle va peut-être leur souffler à l'oreille le petit détail qui va faire qu'ils vont être célèbres après, justement.
Et du coup, ça fonctionne comment ? Il y a une histoire avec une continuité ou c'est des séquences qui vont être séparées ?
Non, il y a vraiment une histoire. En fait, il y a une petite histoire dans la grande histoire. Donc la petite histoire, je préfère que les lecteurs la découvrent. La grande histoire, c'est qu'elle rencontre les inventeurs. Mais il y a un enjeu, il y a quelque chose. Elle a une raison pour laquelle elle doit rencontrer ces inventeurs là.
Ça, on laissera les lecteurs effectivement le découvrir. On va pas divulgâcher. Utilise un mot assez moche, mais au niveau technique de travail, comment tu fonctionnes? Plutôt traditionnel, plutôt numérique?
Plutôt numérique, parce que je gagne en temps, en qualité et en propreté de mon atelier. J'ai plus besoin d'avoir des chiures de gomme partout et de la peinture étalée sur les murs, donc c'est génial. Donc non, en rapidité, en propreté et puis en efficacité, je préfère travailler en numérique.
Et au niveau travail, scénariste, dessinatrice, un petit peu de tout ou un peu de chaque?
De tout, j'aime bien faire les deux. J'ai besoin de faire les deux parce que j'ai plein d'histoires en tête que je sais que je pourrais pas dessiner et c'est vachement agréable de voir en fait l'idée qu'on avait dans sa tête dessinée par quelqu'un d'autre qui parfois en a fait autre chose et qui fonctionne tout autant. Donc j'aime beaucoup la collaboration avec un dessinateur. Par contre, je sais pas si j'arriverai à nouveau dessiné sous l'ordre d'un scénariste, à part Wilfried Lupano. Alors lui, voilà, je passe une annonce. Wilfried Lupano, s'il veut travailler avec moi, je dis oui à tout. Au scénario, bien sûr.
Est-ce qu'il y a un truc que tu sais pas faire, hein? La couleur, par exemple?
Je suis nulle en couleur. Ah non, c'est une catastrophe. Non seulement je suis pas rapide, mais en plus je suis pas efficace. Donc je peux faire des illustrations en couleur, voilà, je peux, mais j'y passe un temps dingue. Et quand je donne en fait l'illustration en noir et blanc à ma coloriste et quand en l'espace d'une demi-journée elle m'a rendu un truc qui fait waouh, voilà, je sais qu'il faut que j'arrête. C'est pas la peine d'insister. Je suis nulle. C'est un métier, coloriste. Et d'ailleurs, ce serait bien qu'il y ait un prix coloriste aussi à Angoulême. Ça, ce serait vachement chouette, une belle reconnaissance pour eux. Parce que sans les couleurs de Marina sur le petit derrière de l'histoire, bah l'histoire, peut-être qu'elle flasherait moins dans les yeux des gens, je sais pas, mais voilà, c'est très important en fait, la couleur.
Un message qui est passé. Le principe d'édition du petit derrière, c'est pas un parcours d'édition classique.
Non, c'est pas classique. On a une version libraire, on a une version collector. Donc la version libraire est diffusée par les éditions de Joker du groupe Keness, et la version collector n'est pas diffusée, ou très très peu. Elle est vendue auprès des éditions du Chat. Donc c'est une BD bio directement du producteur au consommateur. En fait, si on veut la trouver, il faut directement aller sur le site en fait de l'éditeur pour la voir.
Mais aussi une BD qui fonctionne en financement participatif?
Oui, alors ça, c'est pour les préventes, en fait. Pour justement éviter d'avoir un petit peu trop de pilons, de BD qui partent au pilon, et pour adapter au mieux le nombre d'impressions qu'on fait. On utilise le site Ulule comme prévente. Ça permet de savoir combien d'albums vont être vendus. Et on fait imprimer donc ce nombre d'albums plus un petit nombre en plus, parce qu'il y a toujours des gens qui vont venir en festival le découvrir ou alors prendre la série en cours. Donc on adapte vraiment nos impressions, et comme on a un entrepôt, ça permet de vraiment garder tous les albums. Ils sont pas mis au pilon, ils sont tous conservés, ils sont soit tous vendus, soit ceux qui sont abîmés peuvent être offerts volontiers à des associations ou autres.
Super, une belle initiative, mais aussi un moyen via Ulule d'avoir des petits goodies, des petites choses en plus.
Ah ouais, ça c'est le jeu, c'est rigolo, mais j'ai une âme d'animatrice de colonies de vacances, moi c'est pour ça. Alors du coup, c'est vachement sympa les campagnes Ulule, parce que on joue vraiment énormément avec les lecteurs, donc je leur montre vraiment le petit derrière de l'histoire, et je leur montre vraiment quand j'emballe les colis comment ça se passe. On va aussi avoir des challenges, donc si on arrive à un tel montant, tout le monde a gagné un ex libris. Si on arrive à un tel autre montant, on peut gagner des trucs, et des trucs un petit peu hallucinants. Là, j'avais trouvé une montre qui correspondait à la montre pour voyager dans le temps de Marie. On a une bague Astrolabe, on a un jeu de cartes qui a été totalement créé avec des règles inédites, avec le petit derrière de l'histoire. Donc il y a toujours en fait des petits goodies à prendre en plus si on le souhaite, et on reçoit, quand l'album sort, directement chez soi un gros colis, pas seulement avec l'album.
C'est top. Le petit derrière tome 2 qui vient de sortir, la suite, alors soit du petit derrière ou les autres projets, c'est quoi ?
Alors la suite du petit derrière, bah, donc c'est le tome 3, la couverture est déjà faite, l'histoire est toute faite, enfin toute l'histoire jusqu'au tome 4 est faite. Je bouclerai certainement au tome 4 et après le tome 4, je vais faire plutôt des aventures en one shot du petit derrière. Donc le petit derrière de l'histoire chez les grands inventeurs ou chez les grands médecins ou chez les grands gouvernants, etc. Ce sera un petit peu plus thématique, un petit peu à la manière d'Astérix chez les Belges ou Astérix, voilà. Il y aura toujours un petit challenge en fait pour nos personnages, mais le contexte ce sera bah, soit la médecine, soit le pouvoir, soit la chimie, soit enfin les astronomes. Il y a plein de choses à explorer pour ça. Et sinon, bah, il y a des albums que je vais écrire là au scénario. Donc le cycle 3 d'Inginis va être écrit et j'ai 4 tomes aussi à écrire pour sur l'Égypte antique. Voilà.
Toujours en BD érotico historico.
Toujours en BD historique, ouais, toujours.
La question souvent qui est la plus difficile, si tu devais convaincre quelqu'un d'acheter le petit derrière plutôt qu'une autre BD, qu'est-ce que tu utiliserais comme argument ?
Je n'utiliserai pas d'argument, je laisse les gens choisir. Par contre, s'ils achètent le tome 2, je vais les convaincre d'acheter le... S'ils achètent le tome 1, pardon, je vais les convaincre d'acheter le tome 2 parce qu'ils le trouveront nulle part ailleurs, voilà. Mais non, je ne fais pas de concurrence avec les collègues.
Merci beaucoup, Katia.
Mais de rien, merci à vous.
Radio G 101.5 FM.
Je vous laisse quelques instants avec une petite pause musicale. J'ai choisi le dernier morceau des Red Hot Chili Peppers avec Black Summer.
Skies refuse to cry. Cremation takes its piece of your supply. The night is dressed like noon. A sailor spoke too soon. And China's on the dark side of the moon. My cradle with a tongue, the archer's on the run, and no one stands alone behind the sun. Sailing on a censorship, riding on a headless horse to make the trip.
Radio G 101.5 FM.
On se retrouve sur le 101.5 de Radio G, c'est toujours les caisses de Seb. Vous venez d'entendre les Red Hot Chili Peppers et Black Summer. Un grand merci à Cathy Even pour cette interview, ma foi fort agréable, tellement elle est, je sais pas, je lance des fleurs hein, Cathy, si tu m'entends, mais t'es tellement spontanée que c'est un vrai plaisir de discuter avec toi sur ce genre d'interview, et tu reviens quand tu veux. Le petit derrière de l'histoire, on en parlait brièvement dans l'interview, le tome 3 est en pré-vente, financement participatif sur Ulule. Il vous reste 39 jours au moment où je vous raconte ça, et si vous écoutez ça, il vous reste jusqu'à minuit ce soir pour avoir une contrepartie particulière, puisqu'elle ne sera disponible que le 14 février, à savoir une dédicace avec deux noms sur l'album qui ne fait que depuis ce matin 14 février jusqu'à minuit ce soir. Alors soyez prévenus, si vous voulez participer et que vous voulez profiter de cette petite chose-là, il vous reste que quelques heures. Ça se passe directement sur la plateforme Ulule où il reste 39 jours pour participer aux préventes du petit derrière de l'histoire. Alors, je me rends compte qu'on n'en a pas vraiment parlé, mais le petit derrière de l'histoire, je vais vous donner mon avis, c'est vraiment quelque chose de très fun, très léger, très rigolo. Comme le dit Katia dans l'interview, c'est un petit peu grivois, mais il n'y a rien de choquant, c'est pas hardcore, hein, comme certains pourraient imaginer, et du coup, c'est vraiment très agréable à lire, c'est vraiment très fun. Donc, allez-y, hein, faites-vous plaisir, vous allez rigoler, vous allez apprendre des choses. Vous allez être un petit peu moustillé, hein, même si c'est pas vraiment le but, c'est vraiment, je pense, le divertissement. Je sais pas si Katia sera d'accord avec ça, mais c'est comme ça que je l'ai pris, un divertissement rigolo, mignon, un peu sexy, et qui passe ma foi très très bien. Alors, pour continuer cette émission, j'ai choisi un tout petit ouvrage qui sort, je crois, ça fait une petite semaine qu'il est sorti. On avait déjà parlé de Mademoiselle Caroline il y a un petit moment, et puis vient de sortir son carnet d'aventure ordinaire, L'Homme, volume 2, aux éditions Delcourt. Alors, qu'est-ce que c'est les carnets d'aventure ordinaire ? Bon, c'est surtout des compilations de gags, d'histoires que Mademoiselle Caroline nous raconte directement sur son blog ou sur Internet. Je ne sais plus vraiment si c'est un blog. Mais celles-ci sont consacrées principalement à l'homme. L'homme, c'est son homme à elle, principalement. À Raphaël, de son prénom, si je ne me trompe pas. Un homme qui a une certaine façon de vivre, une certaine façon de penser. Il peut paraître un peu rustique, un peu brusque, un peu brut de décoffrage, pour rester poli, et rien ne semble vraiment l'incommoder, hein. C'est quelqu'un qui est plutôt très spontané dans ses réflexions, et on va dire peu subtil. Bon, ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont une vie commune qui est plutôt rigolote, qui est plutôt efficace, et on découvre avec grand plaisir, en fait, cette façon de fonctionner, et cet individu qui, ma foi, est plutôt particulier. Je ne vois pas comment le décrire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce bouquin, c'est peut-être un petit peu tard pour l'offrir à la Saint-Valentin, hein, mais... vous pouvez le prendre en cadeau pour l'offrir un petit peu plus tard. Vous pourrez toujours dire, tu vois, il y a des gens qui sont pires que toi. Toi, t'es d'accord, tu rôtes, tu pètes, je te retrouve la main dans le slip en train de regarder le match de foot avec une canette de bière à la main. Eh bien, il y a au moins pareil que toi. Ah, pire, je ne sais pas si c'est vraiment possible, mais au moins pareil que toi. Et puis, ça marche très très bien, C'est très drôle, c'est pas subtil, hein. Je ne cherchais pas la subtilité là-dedans, mais c'est vraiment très très fun. Le trait de Mademoiselle Caroline, c'est un trait très souple, très blog, qui est assez souple. Je vois pas comment le décrire différemment, sur lequel on a quelque chose de très spontané, de très lâché, mais qui marche excessivement bien, et dans lequel on peut prendre pas mal de plaisir. On est sur de la BD Feel Good qui passe vraiment bien. C'est de la tranche de vie. Voilà. Donc n'hésitez pas. Les carnets d'aventures ordinaires de Mademoiselle Caroline. Là, c'est L'Homme, volume 2. C'est publié aux éditions Delcourt. Et puis moi, je vous invite à suivre Mademoiselle Caroline sur les réseaux sociaux. Elle publie régulièrement. Et c'est toujours agréable de découvrir quelqu'un qui semble ne pas se prendre la tête dans une vie qui parfois peut être un petit peu complexe. Je vous propose de faire une nouvelle pause musicale avec Tina Guo en duo avec Serge Tankian du groupe System of a Down et la chanson Monot in Space.
www.radio-g.fr.
Vous êtes de retour sur le son 1.5 de Radio G. Vous venez d'entendre Moon Earth in Space, une chanson de Tina Guo, célèbre violoncelliste qui a un violoncelle électrique. Et c'était Serge Tonkian du groupe System of a Down au chant. Pour le prochain album, je vais vous emmener au pays du soleil levant avec un manga. Un manga qui a beaucoup résonné dans mon petit cœur. Puisque c'est un manga qui est la suite d'un manga que j'ai lu il y a très longtemps. Je ne sais pas quand est-ce qu'il était sorti, mais il s'agit de la suite du manga Blue Hole, le trou bleu en français, je ne sais même plus chez qui il était sorti à l'époque. Mais le manga dont je vais vous parler ce soir s'appelle Blue World, c'est de Yukinobi Oshino, et c'est publié aux éditions Pika dans la collection Pika Graphique. Alors pour ceux qui aiment les mangas, sachez que là vous êtes dans un ouvrage qui est un peu plus dense que la moyenne, un peu plus gros dans son format, mais qui fait tout de même 332 pages. Donc c'est pas le petit manga que vous allez pouvoir vous trimballer facilement, mais c'est un manga qui va certainement vous marquer. Alors ça me marque d'autant plus que, là je vous raconte un peu ma vie, mais je viens juste de regarder le deuxième film Jurassic World. J'ai été déçu, je ne vais pas débattre là-dessus, je pense que il y a des gens qui le feront mieux que moi, des gens qui parlent sans doute beaucoup mieux de cinéma, mais j'étais pas mal déçu. Et du coup j'ai continué avec ce Blue World. Alors vous allez me dire, oui mais Sébastien, qu'est-ce que c'est Blue World? Pourquoi tu nous parles de dinosaures? Eh bien, imaginez que dans le monde qui nous entoure, il existe, au fond des océans, des trous bleus. Ces trous bleus sont des anomalies spatio-temporelles dans lesquelles, à travers lesquelles on peut traverser et rejoindre une autre époque. Alors, tous les trous bleus ne débouchent pas à la même époque. Certains vont déboucher très très loin dans le passé, d'autres beaucoup plus récemment dans le passé, mais ils ont pour particularité de déboucher dans des endroits où la croûte terrestre et le champ magnétique terrestre étaient perturbés. Donc ça s'est passé il y a très longtemps. Et en fait, on va retrouver un trou qui va mener au Jurassique. Et bien sûr, quand les humains trouvent quelque chose qui a l'air intéressant, tout de suite ils se disent, on va l'étudier de manière très respectueuse, sans déranger quoi que ce soit en face, pour être sûr de ne jamais perturber le cours de l'espace-temps ou quoi que ce soit. Non, bien sûr que non. On va essayer d'aller créer une base de l'autre côté pour pouvoir en exploiter toutes les ressources. Sinon, ce serait pas drôle. Alors, je vais pas vous gâcher l'histoire, mais effectivement, on va trouver deux personnes. Alors, j'ai pas eu le temps de relire le trou bleu. Qui comme je le disais tout à l'heure, commence à dater. Et je crois qu'on retrouve en fait deux des personnages de ce manga qui commencent à enquêter sur les trous bleus. Et ils vont enquêter sur un trou et, par la force des choses, se faire embarquer à travers ce trou bleu en compagnie de forces armées, en compagnie de scientifiques qui sont là pour vraiment rechercher et essayer de comprendre ces choses-là. Alors, comme dans tout film catastrophe, rien ne va se passer comme prévu et ils vont possiblement se retrouver bloqués dans une époque qui n'est pas la leur et devoir s'en sortir. Alors, oui, j'ai sans doute parlé de beaucoup de choses de ce manga, je suis beaucoup avancé dans l'histoire, mais sur la totalité du volume, il faut bien quand même pouvoir vous donner envie.
C'est une série qui se clôture en 3 tomes. Je compte pas le trou bleu dedans. C'est Blue World qui va être en 3 tomes. La série est terminée, donc il n'y en aura pas plus. Même si on aurait vraiment envie d'avoir quelque chose de plus long, parce que c'est vraiment très agréable à lire. Scientifiquement parlant, je n'ai pas le niveau, donc je ne peux pas vous dire si c'est accurate ou pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est passionnant, c'est palpitant. On a des explications qui semblent cohérentes, hein, de mon point de vue de néophyte, et que Yukinobu Oshino fait partie des auteurs considérés comme des auteurs prestigieux de science-fiction japonais. Moi, je vous avoue, je ne savais pas que c'était un auteur de science-fiction. Je n'avais pas retenu son nom avec le trou bleu, mais bon, j'avais 15 ans quand j'ai lu le premier tome, donc on peut me pardonner. Graphiquement, c'est un dessin qui commence... Il a l'air... il fait un petit peu vieillot quand même. Mais c'est un dessin qui est très précis. C'est un dessin qui fait la part belle à la jungle, au décor. Si vous en avez marre de voir des mangas où on ne voit que le visage des personnages, là, vous allez vraiment être dépaysé. Si vous aimez les animaux, les dinosaures, les choses comme ça, là encore, une fois, on a de belles représentations qui... Je ne pense pas son accurate. On m'avait dit que maintenant les dinosaures avaient des plumes, mais au moment où il l'a écrit, je pense qu'il avait déjà des descriptions qui étaient très précises de ce qu'il voulait faire et de ces dinosaures tels qu'on les concevait scientifiquement à l'époque. Qu'est-ce qui est aussi intéressant, c'est que il y a des personnages qui sont divers et variés. Bon, certains personnages, de par leur métier, sont un petit peu caricaturaux, mais nous avons aussi des personnages féminins très forts, des personnages de premier plan, chose qui n'est pas forcément toujours encore évidente et acceptée dans beaucoup de mangas ou même de BD franco-belges. Et ça, c'est hyper intéressant, c'est hyper frais, puisque on nous présente des personnages qui sont plutôt différemment utilisé de ce qu'on pourrait penser avoir d'habitude. C'est vraiment très très bon. Voilà. Je pense que vous avez compris que j'ai vraiment adoré ce Blue World de Yukinobu Oshino, pardon, et que je vous invite vraiment à le lire. Je crois que je vais attendre avec impatience les 2 tomes suivants, me replonger dès que j'en aurai la possibilité dans le premier. Je vous ai retrouvé la date entre-temps. Blue Hole, c'est sorti en 91, donc j'avais 10 ans. Hein. Voilà, c'est pour ça que ça remonte à loin. Et ce Blue World est vraiment, vraiment sympa. Ça, c'est une vraie suite logique. C'est vraiment bien. Il y a quelques pages couleurs sur ce tome 1, ce qui rend le truc encore plus intéressant. Donc vraiment, si vous aimez les dinosaures, si vous aimez la science-fiction, si vous me faites confiance, hein, chers auditeurs et auditrices, eh ben, n'hésitez pas à lire Blue World de Yukinobu Oshino, publié aux éditions Pika dans la collection Pika Graphique. Juste avant de nous quitter, je vous propose de faire une dernière pause musicale avec le groupe Green Lads et la chanson Corrigan. Corriganda, pardon, c'est un groupe que j'ai découvert il y a très peu de temps qui fait du dubstep celtique. C'est original, c'est fun et je trouve que ça marche plutôt bien.
on se retrouve une dernière fois sur le 101.5 de Radio G pour la case de Seb. Vous venez écouter Green Lads et Corriganda. Et j'aimerais vous parler d'un autre ouvrage. Un ouvrage qui s'appelle Arkham Mystery, petit tome 1, Le ciel des grands anciens, et qui est publié aux éditions Soleil. C'est dessiné par Manuel Garcia, ou Garcia, je sais pas, et Richard Denolan au scénario, avec des couleurs de Didio Lima et une couverture de Jean-Sébastien Rosbach. Autant vous dire que moi, quand je vois Arkham, quand je vois Grands Anciens sur une couverture, j'ai deux réactions actuellement. Soit je frétille d'impatience, parce que j'adore en fait tous les univers qui sont tirés de Lovecraft, mais j'ai également très peur, puisque il faut savoir que quand on nous parle d'adaptation de Lovecraft et du mythe de Cthulhu, eh ben, il y a souvent à boire et à manger. Et il y a plus souvent des trucs pas vraiment réussis que des trucs bien bien réussis. Alors, à votre avis, celui-ci, il va se situer où ? Ben oui, effectivement, si j'en parle, c'est que j'ai bien aimé. Je parle rarement des trucs que j'ai pas aimés. Ce serait un exercice différent de descendre des ouvrages que je n'ai pas aimés, mais globalement, j'ai beaucoup aimé. Alors, on va le faire de la manière dont je l'ai vécu. Une couverture plutôt intrigante, avec dans un fond des pyramides, mais pas de la pyramide égyptienne, de la pyramide à degrés. Alors, je parle de la couverture. Un homme torse nu, de dos, avec une petite moustache, et dans le dos, un espèce de symbole qui ressemble à une espèce de boussole, et il est enveloppé par des tentacules. Alors la couverture est plutôt séduisante, mais encore une fois, on sait peu de choses, puisque là, on nous présente plein d'éléments qui sont récurrents dans l'univers de Lovecraft, et on va voir ce que ça donne. Au dos, on nous parle du professeur Armitage. Alors ça, ceux qui connaissent Lovecraft, le nom, il doit leur parler directement. Et on nous parle d'un homme qui a tout perdu, y compris son vieil ami en Mongolie, et qui va tenter de retrouver un peu de tranquillité à Arkham, et qui va se rendre compte qu'il y a plein de choses qui vont mal aller, mais il pourra compter sur le soutien d'une jeune femme, Skylar Duquesne, qui est la patronne d'un journal local, et de son un assistant, le jeune H.P. Lovecraft. Alors, ça, on a l'impression qu'il y a plein de choses qui ont été mises là juste pour faire genre. Mais en fait, non. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est beaucoup mieux travaillé que ça. Puisqu'on va commencer par nous faire un petit récap de qui est le professeur Armitage et comment il en est venu à se retrouver avec cette espèce d'imposant tatouage dans le dos. Il lui arrive des choses, il est parti à la recherche d'un de ses camarades, et à son retour, bah en fait, il a été accusé de divers crimes, je vais pas vous les détailler, mais du coup, il perd son poste de professeur. Et le seul endroit où on accepte de le reprendre en tant que professeur, c'est l'université d'Arkham. Et à Arkham, ceux qui connaissent Lovecraft savent qu'il y a des ouvrages impies dans la bibliothèque qu'il ne faut absolument pas lire. Et bien là, notre ami Armitage va pouvoir découvrir des choses et découvrir qu'il y a des grands mystères et que sa présence réveille sans doute beaucoup de choses. Alors, déjà, un truc qui m'a perturbé, c'est qu'au départ, le dessin ne m'attirait pas vraiment. C'est un dessin qui était un petit peu sombre, avec des ombres qui étaient un petit peu forcées. Mais au final, c'est un dessin qui fonctionne bien. Il y a un côté qui a l'air un petit peu vieillot, qui va bien fonctionner pour re-ancrer dans une période un peu plus moderne quand même que les récits de Lovecraft, tout en gardant cet aspect suranné qui sied à ce genre de récit. Et puis, un autre point qui est intéressant, c'est que les auteurs ont compris que Lovecraft, ce qui le passionnait, c'était pas de nous montrer ces créatures. Il nous les a toujours décrits, et c'était dans l'imprécision de ces descriptions que se situait la terreur, la grande peur qu'on pouvait avoir de ces créatures, qui rendent absolument fou toute personne qui les contemple. Et là, à chaque fois qu'on nous parle de créatures dans l'ouvrage, soit les personnages sont dans l'ombre, soit les créatures sont visibles que partiellement, et du coup on a cette suggestion des créatures qui fait que on est toujours dans cette espèce d'esprit de terreur et qu'on ne les connaît pas, on ne les reconnaît pas. Et ce qui fait que c'est hyper agréable, puisqu'on a des gens qui ont bien compris l'esprit de Lovecraft. Quant aux termes qui sont réemployés contre l'usage de Lovecraft dans la diégèse du bouquin, ça marche bien. C'est pas fait de manière trop indélicate pour que ce soit forcé, et ça marche très très bien. L'histoire est plutôt captivante, je vais pas vous en révéler plus parce qu'il faut quand même vous laisser le découvrir, mais malgré un a priori un petit peu complexe sur un tel ouvrage, on le finit en attendant la suite quand même, parce que ça donne vraiment envie, et on sent des gens qui ont compris comment fonctionne Lovecraft, qui ont tenté de moderniser et de réutiliser un petit peu l'univers qu'il a créé, tout en gardant l'essence de manière fort bonne. Quoi ajouter, si ce n'est que les couleurs fonctionnent bien. C'est peut-être là où on tombe un petit peu dans l'habitude, mais effectivement, on se retrouve avec beaucoup de teintes un peu vert sombre, un peu. Mais c'est des teintes qu'on retrouve assez facilement dans les univers de Lovecraft, et ma foi, ça marche bien. Donc, il n'y a rien de choquant à ça, et c'est vraiment efficace. Je vais vous redonner les différentes références. Il s'agit de Arkham Mystery, le tome 1, qui est publié aux éditions Soleil. C'est sous-titré Le ciel des grands anciens. C'est scénarisé par Richard D. Nolan, dessiné par Manuel Garcia, avec des couleurs de Didjo Lima et une couverture fort appétissante de Jean-Sébastien Rosbach.
That's all, folks.
Vous venez de l'entendre, c'est Porky qui signale la fin de l'émission. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous laisse dans quelques instants avec des gens qui ont un gros bazar, qui font un gros bazar. S'ils sont là, je ne sais pas, puisque c'est une émission enregistrée. Mais en tout cas, je leur souhaite le bonjour et je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir. J'espère que vous avez une nouvelle fois passé un bon moment en ma compagnie. Vous pourrez retrouver le podcast de l'émission d'ici quelques instants sur le 101.5, sur le www.radio-g.fr, onglet La Case de Seb. Vous pouvez retrouver également toutes les autres émissions. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Je vais me remotiver à republier des trucs beaucoup plus régulièrement. Vous pourrez me retrouver également demain de 22 à 23 heures pendant les Voix du Scénarium, toujours sur le 101.5 de Radio G. Et puis on se retrouve pour de nouvelles lectures dans 15 jours. Et en attendant, n'oubliez pas de lire. Il paraît que ça rend intelligent.
Eh ben vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, mais je ne souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi ? Mais c'est fini. Rentre chez toi. www.radio-g.fr.